Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi
Amen.
soit-il.
Ne savez-vous pas pourquoi, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père? Mes très chers frères, la fête de la Sainte Famille a été donnée à l'Église en ces derniers temps, afin que la doctrine de la famille chrétienne puisse être explicitée et qu'aucune confusion ne puisse venir remplir de ténèbres les chrétiens qui sont appelés au saint état du mariage. Il y a bien des choses à voir dans cette fête de la Sainte Famille, bien des mystères du point de vue de notre salut, bien des choses merveilleuses du point de vue de l'histoire de l'incarnation de notre Seigneur et la venue du Messie. Mais aujourd'hui, nous, avec l'aide du Saint-Esprit, nous regarderons plutôt la Sainte Famille comme la source de la doctrine de la famille chrétienne. Nous ne pourrons pas évidemment tout voir, mais nous verrons des grandes lignes. Premièrement, nous verrons qu'il y a un ordre immuable qui est un ordre qui est l'ordre de la réalité créée. Et il est pour Dieu, et car fondé en Dieu, les créatures humaines sont structurées par cet ordre en vue de leur finalité. Ensuite, nous verrons qu'il y a une hiérarchie et que cette hiérarchie est le moyen de l'ordre. Nous verrons rapidement les rôles de chacun et nous verrons aussi que certaines choses sur le principe de la lieutenance, la lieutenance divine. Et enfin, nous verrons que, en plus de l'ordre, avec l'ordre et la hiérarchie, il y a la charité, qui est le lien de perfection, qui est le moyen de l'ordre et qui est l'âme de la hiérarchie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Les paroles que vous avez entendues en début d'introduction sont celles de notre Seigneur, bien sûr, lorsque ses parents l'ont retrouvé dans le temple. Mon fils, dit la Sainte Vierge, pourquoi avez-vous agi de la sorte avec nous? Voilà que votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon père? Être aux choses de notre père, à l'imitation de notre Seigneur, qui historiquement est inimitable, mais qui spirituellement est notre modèle. Être aux choses de notre Père, c'est connaître l'essentiel de ce que nous devons connaître pour être de dignes enfants de Dieu. Rien ne sert de se dire enfant de Dieu, rien ne sert de confesser que c'est Dieu qui a créé toutes choses, si nous ne vivons pas selon la volonté du Dieu qui nous a créés, qui a créé toutes choses. Et donc, un principe fondamental que nous devons savoir, c'est que dès lors que Dieu a créé, Dieu a structuré. Dieu n'a pas créé une chose informe et l'a laissée lentement prendre par ses propres moyens certaines formes, tâtonner pour se trouver des lois. Dieu a créé et immédiatement il a structuré. Et cela n'est pas une fantaisie de notre part, c'est une vérité dogmatique, puisqu'il a tout, il a créé toute chose dans son Fils, et l'apôtre nous dit que c'est dans son Verbe que toute chose subsiste. Or, le Verbe est le Fils de Dieu, donc il est impensable de penser que le Verbe ne soit pas la structure même de la création, en tout cas ne confère pas à la création sa structure. Il est distinct, bien sûr, mais la création subsiste en lui. Dès lors qu'il a créé, Dieu a structuré. Il y a donc un ordre des choses. Et cet ordre des choses est ce qu'il est et est ce qu'il y a de plus immuable dans l'univers. De telle sorte que si cet ordre des choses vient à être modifié, c'est l'univers tout entier, c'est le cosmos tout entier qui est dit vaciller sur ses bases. Et c'est une des raisons de la société traditionnelle que de préserver la bonne marche de l'univers. C'est un lieu commun que l'on trouve dans toutes les sociétés traditionnelles. Alors, chacune tâtonne après la chute, en imaginant que telle ou telle chose permet le salut de l'univers. Dans le christianisme, nous avons exactement la même perspective, mais nous avons aussi le moyen. Et ce moyen de préserver l'ordre des choses l'ordre de la marche des choses dans le monde, c'est de préserver l'ordre des choses dans le petit monde qu'est le monde humain. Cet ordre des choses, c'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'ordre des choses, encore une fois, et c'est un ordre qui est immuable. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas, en fonction des époques, prendre certaines nuances qu'il n'a pas à d'autres époques. Ça, ce n'est pas grave. C'est parce que nous sommes sous la Lune et que c'est un monde de changement, de telle sorte qu'il y a des fluctuations, mais ce sont des fluctuations qui sont toujours sur le même thème. L'ordre des choses, si vous regardez bien, structure l'humanité traditionnelle d'une façon immuable, alors même que l'humanité traditionnelle est très multiple. Ça, c'est simplement sur du point de vue factuel. Dans le christianisme, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a un ordre des choses, et spécialement rapporté à la famille, qui a pu avoir certaines fluctuations, certaines modifications, mais qui ne fluctue pas, qui ne se modifie pas radicalement. Dans la doctrine de la famille, il y a bien sûr une certaine différence entre les possibilités de l'ancienne et de la nouvelle loi. Dans l'ancienne loi, il y avait la possibilité de la polygamie, qui n'est jamais que le mariage répété d'un homme avec plusieurs femmes, et ce sont des vrais mariages, et les familles polygames de l'Ancien Testament étaient tout à fait valides, normales et tout à fait acceptables. Et dans la nouvelle loi, notre Seigneur a fondé ce qu'on appelle la monogamie, enfin, même si c'est un terme qui n'est pas théologique, c'est-à-dire qu'il a, en fonction du mystère du Christ et de l'Église, il a voulu que la famille chrétienne reflète cette réalité, non pas de Dieu époux de toutes les âmes élues, comme dans l'Ancien Testament, qui se reflétait par la polygamie, mais plutôt du Christ époux de son corps mystique, c'est-à-dire de son Église. C'est ainsi que dans la Nouvelle Alliance, la polygamie est interdite, non pas comme si c'était une chose infâme en elle-même, mais tout simplement c'est une possibilité qui est plus lié à une certaine époque de préparation qui ne convient plus à l'époque de l'apparition de la promesse faite à nos pères, c'est-à-dire du Christ, du Messie. Donc, mis à part certaines variations, certaines petites fluctuations, qui ne sont pas d'une très grande conséquence en réalité, l'ordre des choses, et spécialement dans l'ordre familial, ne varie jamais. Doit-on rappeler le fondement même de la famille? La famille, c'est un homme et une femme qui se marient pour avoir des enfants. C'est ça la famille. Il n'y a pas d'autre famille. Toute autre famille composée d'individus humains qui ne correspond pas à cela ne peut pas être appelée une famille. Il y a bien sûr les familles, ce qu'on appelle les familles spirituelles, que sont les monastères par exemple, mais ce sont des familles, disons, par comparaison. Et si ce n'est pas dans un ordre, disons, métaphorique, alors, il n'y a pas de famille, il y a simplement un conglomérat d'individus, peut-être sanctionné par la loi, mais qui n'est pas une famille, qui ne correspond pas à l'ordre des choses, et lorsque, évidemment, la loi autorise ces choses-là, d'une certaine manière, l'ordre du monde vacille sur ses bases. Mais, d'une certaine manière, cela n'abroge pas du tout, de toute façon, cela n'abroge pas du tout l'ordre des choses tel qu'il est. L'ordre de la famille est le suivant. L'homme est le chef, c'est-à-dire la tête. La femme est le corps. L'épouse doit être soumise à son époux. L'époux doit être le protecteur et la providence de sa famille, de sa femme et de sa famille. Je tire ces notions du bref de Léon XIII pour la fondation de la fête de la Sainte Famille. Les enfants doivent être soumis à leurs deux parents. C'est un ordre immuable. Il y aurait bien des choses à dire sur le grignotement, si j'ose dire, de cette formulation de l'ordre des choses par toutes sortes de gens qui ne sont pas forcément des gens qui se veulent subversifs, mais qui le sont. Il y a cette formule qui est assez en vogue chez les antiféministes, l'homme est la tête, la femme est le cœur. Alors, sous un certain rapport, ce n'est pas totalement faux, mais d'une certaine manière, ce n'est pas la formulation traditionnelle. L'homme est la tête, la femme le corps, symboliquement parlant. Dans le corps, il y a le cœur si vous voulez, mais c'est le corps. Sinon, on dirait qu'il y a la tête, et d'une certaine manière, comme le cœur symboliquement est quand même plus élevé que la tête, d'une certaine manière, cela revient à cette formule fondamentale du féminisme, la femme est l'égale de l'homme, donc elle lui est supérieure. D'une certaine manière, nous retrouvons cela malheureusement dans bien des discours qui se veulent traditionnels, qui se veulent en tout cas anti-féministes, et qui ne sont qu'alter-féministes en réalité. L'homme est le chef, la tête, la femme, symboliquement, comme l'homme est symboliquement la tête, l'homme, la femme est symboliquement le corps. Le corps et la tête vont de pair, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un corps sans tête ou une tête sans corps, mais il ne faut pas essayer de chipoter pour essayer de soustraire l'homme ou la femme à l'ordre des choses et à la place qui lui reviennent, qui revient à chacun. Cet ordre, disions-nous, est immuable. Le foyer est constitué par le foyer ainsi constitué est ce que l'Écriture appelle la maison du Seigneur. C'est pour cela qu'il est écrit dans le graduel, il est une chose que j'ai demandé au Seigneur et je la demanderai sans cesse, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur, ils chantent vos louanges à jamais. Il y a quelque chose de tout à fait magnifique, merveilleux et très vérifiable. C'est que dès lors que l'ordre des choses est respecté, est véritablement respecté, et encore une fois sans adultération, dès lors que l'ordre des choses est respecté, le foyer est véritablement la maison du Seigneur. On pourrait se dire, la maison du Seigneur, c'est le temple. Et d'une certaine manière, le temple, c'est l'église, ou c'est l'église bâtiment, ou c'est l'église en tant que corps mystique du Christ. Est-ce que ce n'est pas trop dire que le foyer est la maison du Seigneur? Ce n'est pas trop dire, puisque ce sont les plus grands saints qui l'ont dit. Le foyer, constitué, structuré, selon l'ordre des choses, est véritablement la maison du Seigneur. Et je dirais, il l'est d'une façon absolue, si l'on peut dire. C'est-à-dire, laissez-moi expliquer, c'est-à-dire que puisque le Christ est représenté par l'époux, qui est le chef, et puisque la femme est représentée par l'épouse, qui est le corps du chef, alors le foyer est véritablement un grand mystère, comme dit saint Paul, c'est-à-dire il est en petit, et selon son mode propre, ce que l'Église est en grand, et selon son mode propre, quoique le foyer fasse partie de l'Église. Donc, ce n'est pas de la grandiloquence, ce n'est pas non plus de l'usurpation, que de dire que le foyer chrétien constitué selon l'ordre des choses, et ce sont une multitude de pléonasmes, n'est autre que la maison du Seigneur. Et il est bon d'habiter dans la maison du Seigneur, et d'une certaine manière, même si ce verset du graduel est susceptible d'un grand nombre d'interprétations en fonction du sens, en fonction du degré de sens, nous pourrions dire que, sous un certain rapport, c'est le cri, c'est la prière de tout être humain, je ne dis pas normal, mais de tout être humain, lorsque sa nature profonde, la nature que Dieu lui a donnée, et la seule qui soit réellement, se met à aspirer à quelque chose. Lorsqu'un enfant qui est dans un foyer qui n'en est pas un, pense à l'ordre des choses, il voudrait avoir un père et une mère catholiques. Il ne suffit pas de dire un père et une mère, car on peut avoir un père et une mère, et qui, quand ils ne sont pas catholiques, l'ordre des choses est restitué, constitué effectivement, mais il manque quand même quelque chose, il manque peut-être même l'essentiel. Donc l'essentiel n'est pas tellement d'avoir un père et une mère, mais d'avoir un père et une mère catholiques. Évidemment, il faut encourager qui que ce soit, même les athées, etc., à avoir de former des foyers avec un père et une mère, évidemment. Je ne dis pas le contraire. Mais n'oublions pas que ce n'est même pas le plus petit dénominateur commun. Le plus petit dénominateur commun entre les chrétiens, c'est la foi, qui est en même temps le plus grand, si j'ose dire, si on fait abstraction de la charité. C'est une grande chose, et c'est une chose aujourd'hui très rare, et un véritable privilège, et je parle aux enfants pour cela, je m'adresse aux enfants pour cela, c'est une chose extrêmement rare que de vivre aujourd'hui, à notre époque, dans un foyer constitué selon l'ordre des choses, et un foyer catholique, c'est-à-dire un foyer qui soit réellement, entièrement, complètement conforme à l'ordre des choses. Il n'y a pas un ordre naturel qui vaut en soi, et puis ensuite il y a la cerise sur le gâteau qui serait le fait d'être catholique. Un foyer n'est véritablement un vrai foyer que dans la mesure où il est catholique. S'il n'est pas catholique, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas un vrai foyer s'il est composé d'un homme et d'une femme qui ont des enfants, mais il lui manque quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la possibilité de vivre à la gloire de Dieu. C'est pour cela que saint Paul, à la fin de l'Épître, dit « Quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par lui à Dieu le Père. » C'est merveilleux quand un homme et une femme se marient, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur non-religion, si j'ose dire. C'est très bien parce que malheureusement, à notre époque, ça pourrait être autrement. Mais d'une certaine manière, c'est une chose très triste. C'est même une chose presque absurde. Et là, on est vraiment dans la survie de la nature au sens le plus bas du terme, c'est-à-dire que c'est l'espèce humaine qui se perpétue un petit peu avec la même, en quelque sorte, avec la même l'instinct aveugle par lequel se perpétuent les moustiques, les mouches, les puces, les lions, les chiens, etc. C'est très bien, c'est fondamental, il le faut, c'est déjà une bénédiction de Dieu. Mais cela n'est rien quand l'homme et la femme ne se marient pas pour vivre à la gloire de Dieu ensemble selon l'ordre des choses. Donc c'est une chose très bonne lorsqu'un homme et une femme se marient pour former un foyer, mais ce n'est presque rien par rapport à un homme et une femme catholiques qui se marient pour former un foyer catholique. Ce n'est presque rien. C'est le béaba, c'est le balbutiement, c'est la nature qui ne fonctionne pas d'une façon non naturelle. Mais la nature est faite pour Dieu. Et lorsqu'elle ne fonctionne pas, si j'ose dire, pour Dieu, elle est dans un état de quasi-absurdité. D'où, effectivement, au bout de quelques générations d'impiété légale dans nos pays, dans notre pays, cette destruction de la famille. Il ne faut pas voir forcément dans la destruction légale de la famille quelque chose qui vient bouleverser un ordre établi auquel tout le monde adhère. À quoi sert-il de se forcer à épouser, quand on est un homme, une femme pour avoir des enfants, puisque de toute façon, c'est tout aussi absurde que de ne pas se marier et d'avoir des enfants, ou alors même de se marier avec des gens avec lesquels on ne devrait pas se marier, on ne peut pas se marier, et de toute façon, on pourrait avoir quand même des enfants d'une manière ou d'une autre. Pourquoi l'ordre des choses s'imposerait-il à l'homme sans Dieu comme une évidence? D'une certaine manière, alors vous allez dire, mais il y a quand même un instinct naturel. Je ne le nie pas, évidemment. Mais sous un certain rapport, reconnaissez que lorsqu'on ne se marie pas pour la plus grande gloire de Dieu, pourquoi se marier? Et même pourquoi se marier avec une femme? Donc vous voyez, ou à un homme, etc. L'ordre des choses est ce qu'il est, et l'ordre des choses appartient à Dieu, et il est pour Dieu, car il vient de Dieu. Dieu a fait que l'homme et la femme se marient pour avoir des enfants, afin qu'ils puissent de cette manière-là vivre à sa gloire. C'est une grande chose, c'est une chose merveilleuse que de naître dans un foyer catholique, et les enfants qui naissent dans un foyer catholique, véritablement catholique, je ne parle pas de catholicoïde, mais dans un foyer véritablement catholique, doivent se considérer comme les chéris de Dieu, et ils doivent, plus que quiconque, avec l'aide de ce même Dieu, rendre grâce à Dieu et vivre conformément à la grâce immense, presque inouïe, qui leur a été faite aujourd'hui. Ce qui était une chose très commune autrefois, même si les foyers vraiment catholiques, c'est-à-dire pratiquants et pieux, étaient moins nombreux qu'on peut l'imaginer, néanmoins aujourd'hui c'est devenu une rareté. Et malheureusement, il y a encore des gens qui arrivent à adultérer la religion catholique en faisant que des enfants naissent dans un foyer qui se dit catholique et qui ne l'est pas. Ça, c'est une autre affaire. Donc, mes enfants, pensez bien à rendre grâce à Dieu pour la bénédiction, le privilège insigne que Dieu vous a fait de naître dans un foyer composé d'un papa et d'une maman qui soient véritablement catholiques. Il n'y a pas de bonheur en dehors de l'ordre. C'est pour cela qu'il est dit « Heureux ceux qui habitent dans votre maison, Seigneur. Malheureux ceux qui habitent en dehors de votre maison. » Vous allez dire, ce n'est pas parce qu'on est dans un foyer catholique qu'on est à l'abri du malheur. Il peut y avoir des tensions entre l'époux et l'épouse, il peut y avoir des tensions entre les parents et les enfants, entre les enfants entre eux. Certes, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Mais nonobstant cela, alors voyons plutôt les choses autrement. C'est vrai aussi chez les païens, chez les impies. Il peut y avoir des tensions dans des familles impies. Évidemment, ça se saurait sinon. Maintenant, peut-il y avoir un véritable bonheur dans les familles impies? Alors vous allez dire, il y a un certain bonheur. Oui, évidemment, heureusement. Heureusement pour eux. Mais ce n'est pas un vrai bonheur. D'ailleurs, ce bonheur-là se termine souvent mal. Et je ne pousse pas au malheur, évidemment, mais je dis, il se trouve que aujourd'hui, plus d'un foyer sur deux divorce, et quand ils ne divorcent pas, on se demande pour quelles raisons ils restent ensemble, et c'est souvent pour des raisons malhonnêtes. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des tensions, bien sûr qu'il peut y avoir des conflits dans un foyer catholique, hélas, mais c'est le lot de toutes les familles. Peut-il y avoir du bonheur dans une famille qui n'est pas catholique? Non, il ne peut pas y avoir de bonheur. Pourquoi? Parce que il n'y a de bonheur qu'à servir Dieu selon l'ordre des choses. Et quand je dis servir Dieu, c'est d'une façon consciente, pieuse et véritable. Bien sûr, celui qui, l'homme et la femme athées qui se marient et qui veulent avoir des enfants dans le cadre de leur mariage, sous un certain rapport, obéissent à Dieu. Mais enfin, en même temps, tout ce qu'ils font déshonore Dieu. Il n'y a de bonheur que dans le foyer catholique. Alors vous voyez, chers parents, chers époux, il y a quelque chose de vraiment très triste lorsque l'on ne fait pas tout pour la gloire de Dieu à l'intérieur du foyer, puisque c'est dans vos foyers catholiques que l'on peut, et là seul, que l'on peut être heureux. Puisque l'image, le bonheur, ce bonheur n'est autre qu'une sorte d'avant-goût, une image de la béatitude. Vous êtes constitué, votre foyer est constitué selon cet ordre des choses, et vous êtes catholique, vous voulez servir Dieu. Alors travaillez, et nous verrons pour terminer comment, travaillez au bonheur de votre foyer. Ça ne veut pas forcément dire le bonheur temporel, le bonheur humain, le bonheur au sens de l'impie, où il n'est heureux que dans la mesure où il fait tout ce qu'il veut. Dans ce sens-là, il n'est jamais vraiment heureux. Le bonheur consiste dans cette absence relative de nuages, dans cette harmonie, dans cette paix, thème que nous allons retrouver très rapidement. Tous les malheurs viennent de la rupture de l'ordre. Il y a des gens très souriants qui sont dans l'inversion de la nature et qui montrent combien ils aiment leurs enfants, etc. Je veux bien que ce soit peut-être de bons parents, je veux bien, après tout, il faudrait en connaître de près, et c'était pour voir ça de près. Ils ne peuvent pas être bénis par Dieu. Ils ne peuvent pas être dans le vrai bonheur, ils ne peuvent pas être dans la bénédiction divine. La grâce peut, bien sûr, toucher ses enfants, elle peut même toucher ses parents pour les convertir. Tout est possible à la grâce, rien n'est impossible à Dieu. Mais il est impossible que ces gens-là soient dans le bonheur, parce que même les gens normaux, lorsqu'ils ne craignent pas Dieu et qu'ils ne servent pas Dieu, ne peuvent pas être dans le bonheur. Et leur vie est tout entière faite de faux bonheur et de malheur. Seul le catholique, seul le chrétien peut véritablement connaître ce qu'est le bonheur ici-bas, qui est très relatif mais qui est réel. Et le bonheur, c'est de renoncer à soi-même pour vivre pour Dieu conformément à l'ordre des choses. Il y a donc un ordre des choses. Nous en avons dit quelques mots. Cet ordre des choses a besoin, pour être mis en place et pour subsister, d'une sorte de manifestation de lui-même. Et la manifestation de l'ordre des choses, parce que l'ordre des choses, c'est la volonté structuratrice de Dieu, eh bien, la hiérarchie, c'est la manifestation de l'ordre des choses. La très sainte Vierge Marie dit à son divin fils, « Mon fils, pourquoi avez-vous agi de la sorte avec nous? Voilà que votre père et moi, nous vous cherchions tout affligés. » Mes frères, comprenons bien l'importance et l'enseignement de cet évangile. Pour nous, nous sommes en train, dans ce cadre de ce serment, en train de voir un petit peu les fondements de la doctrine de la famille chrétienne. Le Christ, historiquement parlant, l'enfant Jésus, agit de façon nécessaire et prophétique relativement à la raison de son incarnation. Il fallait, nous disent les commentateurs, nous disent les pères, que l'enfant Jésus se manifestât d'une façon paradoxale, c'est-à-dire d'une manifestât sa divinité, la conscience de sa divinité, entre sa naissance et son apparition publique au Jourdain, pour que l'on ne puisse pas dire que tout ceci avait été une illusion, pour que l'on ne puisse pas dire que le Christ, que le Verbe éternel de Dieu ne s'était pas véritablement incarné, ou que l'on ne puisse pas dire non plus, c'est l'erreur extrême opposée, que le Christ n'était qu'un homme qui, à un certain moment, a pris conscience qu'il avait une grande mission, etc., un peu comme les fous que l'on voit un peu par-ci, par-là. Il fallait qu'une fois dans son enfance, le Christ fasse parler de lui, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'il fausse compagnie à ses parents pour rester à Jérusalem après le pèlerinage, et qu'il se manifeste dans le temple au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, et excitant l'admiration de tous ceux qui entendaient ses réponses. Donc il le fallait, dans un certain sens, il le fallait, c'est le sens historique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les enfants peuvent désobéir à leurs parents, ou plutôt pas désobéir à leurs parents, mais disons que les enfants peuvent faire n'importe quoi et peuvent rester à l'église alors que c'est le moment de rentrer à la maison? Bien sûr que non. C'est pour cela que l'Évangile ne craint pas de transcrire, de nous faire connaître cette parole de la Sainte Vierge à son fils, qui est quand même une parole de reproche. « Mon fils, pourquoi avez-vous agi de la sorte avec nous ?» C'est un reproche très doux, c'est vrai, mais enfin, c'est quand même un reproche. La Bienheureuse Vierge Marie a le droit de lui faire ce reproche au nom de l'ordre des choses, de sorte que la raison transcendante n'est pas, de sorte que la raison transcendante de l'action du Christ n'est pas comprise de la Sainte Vierge et de Saint Joseph. C'est pour cela qu'il est écrit « Mais eux n'avaient pas compris la parole qu'il leur avait dite ». N'y voyez pas une sorte d'ignorance ou n'y voyez pas une erreur dans l'Évangile parce que la Sainte Vierge est omnisciente, elle est divine, etc. N'allons pas trop vite, laissez tomber les para-évangiles et les délires mysticoïdes, écoutons bien l'Évangile. Mais eux n'avaient pas compris la parole qu'il leur avait dite. Pourquoi n'avaient-ils pas compris la parole qu'il leur avait dite? Parce qu'elle était prophétique, parce qu'elle était surnaturelle, parce qu'elle ne s'inscrivait pas dans le cadre de la doctrine de la famille chrétienne. Dans la famille chrétienne, cet événement, cette aventure de notre Seigneur au Temple, cet évangile de la Sainte Famille, enseigne que les enfants doivent obéir à leurs parents et qu'ils ne doivent pas les mettre dans une situation où ils sont plongés dans l'angoisse et l'affliction à cause d'une action qui ne correspond pas à l'action auquel les parents peuvent s'attendre de la part de leurs enfants. Vous voyez, la légitimité de chacun, de l'action du Christ, est maintenue. Mais cela ne fonde pas quelque chose pour un désordre pour la famille chrétienne, dans la famille chrétienne. C'est pour cela que sur le moment, ni la Sainte Vierge ni Saint Joseph n'ont compris ce que le Christ leur a dit. Ils raisonnaient selon l'ordre des choses, et cet ordre des choses est un ordre si immuable que même le Fils éternel de Dieu n'a pas pu, sans recevoir un reproche, en quelque sorte, non pas le transgresser, mais disons le transgresser mystiquement, disons, si l'on peut dire, sans recevoir un reproche. Ce n'est pas qu'il le méritait, il ne le méritait pas. Mais il n'a pas agi ici en enfant chrétien quelconque, il a agi ici en Messie, en enfant Jésus, en fils de Dieu. D'ailleurs, il dit « Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon Père ?» Et ça, c'est le fond même de la parole de notre Seigneur, de telle sorte que le reproche que la Sainte Vierge lui adresse est irrecevable en tant que fils de Dieu, mais l'enfant chrétien qui doit imiter, qui veut imiter le Christ, doit savoir qu'il doit être constamment aux choses de son Père, c'est-à-dire qu'il doit poursuivre la gloire de Dieu par son insertion dans l'ordre des choses. L'ordre est la disposition des choses afin qu'elles puissent atteindre la réalisation de leur raison d'être. Je répète, l'ordre est la disposition des choses afin qu'elles puissent, les choses, disons la disposition que Dieu a voulu que les choses aient, afin qu'elles puissent atteindre la réalisation de leur raison d'être. Les choses sont ce qu'elles sont, non pas parce que Dieu a voulu qu'elles soient ce qu'elles soient, et il y aurait un aspect absurde, abstraction en fait de la volonté divine, Dieu a voulu que les choses soient ce qu'elles soient, pour que sa créature humaine atteigne le but qu'il lui a fixé. Dieu a voulu que l'homme soit le chef de la femme, afin qu'en étant son chef, il puisse se sanctifier. Dieu a voulu que la femme soit soumise à son mari, afin que lui étant soumise, elle puisse se sanctifier. Dieu a voulu que les enfants obéissent à leurs parents, afin que les enfants puissent se sanctifier. Si ils ne suivent pas cet ordre, ils ne peuvent pas se sanctifier. Mais pour cela, c'est pour cela que l'ordre ne peut être maintenu que par la hiérarchisation des créatures. Imaginez que un mari, une femme, les enfants veuillent se sanctifier conformément à l'ordre des choses, mais que la hiérarchie n'existe pas, que la hiérarchisation n'existe pas. Comment voulez-vous qu'ils se sanctifient? Ils sont dans l'abstraction. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que la femme a compris qu'elle doit être soumise à son mari. Le mari a compris qu'il doit être le chef de la femme, c'est-à-dire être le modèle en toutes choses, le directeur, l'évêque des âmes de la petite famille, si j'ose dire, selon son mode propre. Les enfants ont compris qu'ils doivent être soumis à leurs parents et qu'ils doivent leur obéir, mais cela ne se manifeste pas d'une façon visible. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que ça se pourrait? Ne vous inquiétez pas, ça ne pourrait pas exister. Nous parlons de quelque chose qui ne peut pas exister. Pour que l'ordre des choses puisse servir à la sanctification des créatures, l'ordre des choses se manifeste par la hiérarchisation. C'est-à-dire que c'est en vain que la femme, même la plus pieuse, l'épouse la plus pieuse, chercherait à se sanctifier si elle refuse de reconnaître que son mari lui est supérieur et qu'il est son chef. Alors, vous allez dire, c'est très rare qu'on voit ça, quand on commence à voir ça, c'est que déjà les choses sont en train de tomber en pièces. C'est vrai, malheureusement. Maintenant, il y a une façon de refuser à son mari sa qualité de chef, sa qualité univoque de chef. Voilà, ne chipotons pas, qualité univoque de chef, c'est encore une fois, en utilisant tout ce vocabulaire de tous ces auteurs antiféministes, qui vous reformule, mine de rien, la hiérarchisation des rôles, en disant que finalement, l'homme et la femme sont égaux, mais quoi que complémentaires, donc différents, mais égaux, différents, complémentaires. L'homme est supérieur à la femme est inférieure à l'homme, et les enfants, tant qu'ils sont dans leur minorité, doivent obéir à leur père et à leur mère. Voilà la doctrine, mes très chers frères. Donc, si l'on veut se sanctifier, il faut que cette sanctification s'opère dans le cadre de la hiérarchisation réelle des choses. La hiérarchisation comprend deux aspects, l'aspect intrinsèque, l'aspect extrinsèque, si vous me permettez d'être un tout petit peu pédant. Il y a la hiérarchisation des choses telles que Dieu la conçoit, c'est-à-dire que lorsqu'un homme et une femme sont unis par les liens du mariage, Dieu voit l'homme chef de la femme et il voit la femme soumise à son mari. Maintenant, il y a aussi l'aspect subjectif, c'est-à-dire que si les mariés ne jouent pas le jeu, si le mari dit que la femme finalement est divine et que lui n'est qu'une ordure issue du serpent, et si la femme s'imagine qu'elle va sanctifier son mari parce que son mari est un gros crétin qui a besoin de l'action divinisante et civilisatrice de la femme, évidemment, Dieu a beau les voir conformément à la hiérarchisation qu'il a voulu pour eux, eux-mêmes, ne jouant pas le jeu, ne s'y trouvent subjectivement pas. Heureusement, ils s'y trouvent objectivement. Donc, il suffirait pour un couple catholique qui serait imbu de toutes sortes de faussetés glanées sur Internet ou ailleurs, il suffirait qu'il se remette simplement selon l'ordre des choses et il est déjà objectivement en phase avec Dieu. Maintenant, évidemment, si ce n'est pas un couple catholique, si ce n'est pas un foyer catholique, s'ils sont hérétiques, s'ils sont autres, etc., bon, il faut commencer par le commencement, il faut se convertir, il faut être baptisé, etc., si on veut avoir part à l'Alliance. Ça, c'est autre chose, c'est le béaba, mais alors c'est plus vraiment la doctrine de la famille, c'est la doctrine tout simplement de la conversion des gens. Maintenant, vous voyez, la hiérarchisation des choses, la hiérarchisation des êtres, plus précisément, est une condition sine qua non, c'est-à-dire absolument nécessaire pour la sanctification des êtres. C'est une chose que d'adhérer à la doctrine de l'ordre des choses, et aujourd'hui tout le monde, il y a eu 1 million de gens dans la rue pour dire qu'il y a un ordre des choses et qu'il est immuable. Oui, c'est vrai, mais combien vivaient dans la hiérarchisation des créatures? Alors du coup, il n'y a plus personne, ou si peu.